écoutez RFI, l'information en direct de Paris et de Mansadaka.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de rester en notre compagnie sur RFI. C'est le retour et la suite d'RFI Soir. Et tout de suite, c'est le grand reportage du jour. Il nous emmène en Crimée aujourd'hui avec un coup de projecteur sur les Tatars, un peuple musulman d'origine turque installé depuis des siècles en Crimée, cette péninsule de l'actuelle Ukraine sur la mer Noire. Un peuple qui tente de réparer aujourd'hui les séquelles de l'histoire et qui réclame sa réhabilitation. Grand reportage signé Camille Magnard.
Le 18 mai, pour nous, c'est comme un gros nuage noir. Comment est-ce qu'on pourrait oublier ce jour-là, ce jour où ils nous ont tous déportés? En 1941, mon père était parti à la guerre, et en 1944, c'est nous tous qu'ils ont déportés. Ils ont emmené tout le monde, ma mère, ma grand-mère, et nous, ses quatre enfants.
Soultaniye avait 6 ans, ce 18 mai 1944, ce jour où le NKVD, la police politique soviétique, a mis à exécution en moins de 48 heures l'ordre de Staline, la déportation vers l'Asie centrale, l'Oural et le Caucase de plus de 180 000 Tatars de Crimée.
Ne prenez rien avec vous, vous n'aurez besoin de rien, on ne nous a rien dit d'autre à part monter dans les wagons. On pensait qu'on allait nulle part, mais qu'ils allaient juste tous nous tuer, c'est pour ça aussi que les gens n'avaient presque rien pris avec eux. Et puis ce wagon, sale, fermé, et le voyage. Vous imaginez combien de temps il faut en train pour aller de la Crimée à l'Oural, ce qu'on a enduré. On avait faim, les vieux et les enfants mouraient, et on avait froid puisqu'on n'avait rien emmené avec nous.
Oui, les gens ne savaient pas ce qui leur arrivait. Ils pensaient qu'ils allaient rentrer bientôt ou qu'on allait les tuer. Mais on les a tous déportés. Pas un Tatar n'y a échappé. 100% des nôtres ont été déportés.
Iziet a 72 ans, il en avait donc 7 en 1944. En Ouzbékistan, où il a grandi en exil, il est devenu un activiste politique. Un de ceux qui ont rendu leur voix aux Tatars de Crimée dès la fin des années 50.
Mais aujourd'hui, on a accès aux archives. On a retrouvé par exemple la décision signée par Staline qui ordonnait cette déportation massive des Tatars de Crimée. À l'époque, ils avaient besoin d'un motif, de quelque chose pour expliquer au monde une telle déportation. Alors, ils nous ont accusés de collaboration massive avec l'ennemi allemand. Alors qu'en même temps, tous les hommes avaient été enrôlés dans l'armée et qu'il ne restait que des femmes, des vieillards et des enfants dans les villages quand ils sont venus nous chercher. En fait, le but de Staline, c'était de rendre la Crimée ethniquement propre, de slaviser la péninsule. Et pour ça, il fallait se débarrasser des Tatars, qui est une ethnie de Turcs musulmans. Alors, c'est ce qu'ils ont fait.
Le voyage d'Iziet et de sa famille, entassé dans un wagon de marchandises, durera près de 18 jours, de Alushta, au bord de la mer Noire, jusqu'à Tashkent, la capitale ouzbek. Ensuite, ce sera le régime d'assignation en résidence, la steppe, le kolkhoz et les privations.
Dans les 6 premiers mois de la déportation, jusqu'au début de 1945, près de la moitié des Tatars de Crimée sont morts. En majorité, des enfants et des vieillards. À l'époque, le système des cartes de rationnement avantageait ceux qui travaillaient, et les femmes Tatars avec leurs enfants mouraient de faim et de misère. C'est pour ça que les gens sont morts massivement à cette époque. En ces temps-là, on ne pensait pas à rentrer en Crimée, mais à survivre au quotidien. Ce n'est qu'après la mort de Staline et le retour des hommes, de ceux qui avaient survécu à la guerre et au camp de travail, aux prisons, que les choses ont commencé à s'améliorer, un peu. Les familles retrouvaient leur père, leurs bras, quelqu'un qui pouvait travailler et les nourrir. C'est aussi à cette époque que les Tatars de Crimée ont commencé à se réunir et à réfléchir, à relever la tête. Et c'est là qu'on a commencé à préparer le peuple à l'idée du retour sur notre terre, la Crimée.
La bataille politique des Tatars en pleine URSS aura pris au final près de 40 ans. 40 ans de réunions publiques, de lettres à Moscou et de manifestations sur la place Rouge pour exiger la réhabilitation de leur peuple et le droit au retour sur la terre de leurs ancêtres. Un droit qu'ils ont finalement arraché à Mikhail Gorbatchev en 1989. Et ce 18 mai 2009, c'est bien au cœur de la Crimée, sur la grande place Lénine de Simferopol, que des dizaines de milliers de Tatars se sont réunis pour commémorer le 65e anniversaire de la déportation.
Dans l'histoire de chaque peuple, on trouve une date qui restera gravée à l'encre rouge à travers les siècles. Pour nous, Tatars de Crimée, cette date, c'est le 18 mai 1944, le jour qui a fait basculer notre destin et a amené notre peuple au bord de la disparition totale. Mais rien ni personne, pas même les milliers de kilomètres d'exil, n'auront empêché les Tatars de Crimée de rentrer finalement dans leur patrie.
C'est une manière de se souvenir de nos ancêtres qui sont morts pendant la déportation dans les trains qui les emmenaient en Ouzbékistan. On se souvient de ce que nos grands-mères nous ont raconté, comment la vie était dure là-bas. C'est pour cela que chaque année, les Tatars de toutes les villes de Crimée se réunissent ici, à Simferopol. On défile dans la ville et ensuite, on célèbre le deuil sur la grande place Lénine.
C'est pour montrer qu'on est unis et qu'on se battra pour nos droits.
Parmi ces droits, c'est celui à la terre qui reste le plus difficile à conquérir. 20 ans après avoir amorcé leur retour massif au pays, les Tatars de Crimée peinent toujours à obtenir des terrains où s'installer. Aujourd'hui encore, ils ont recours aux occupations sauvages de terres, une pratique qui est devenue depuis les années 90 le symbole du combat des Tatars.
Quand on est rentré en 91, l'État ukrainien refusait de donner des terrains aux Tatars de Crimée. C'est pour ça que les gens ont été obligés de se servir eux-mêmes. Et donc on a commencé à occuper les terres où on voulait s'installer. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de Tatars de Crimée qui vivent toujours en Ouzbékistan et qui veulent rentrer. Mais ils n'ont nulle part où aller. Si seulement les autorités voulaient bien nous rendre les maisons de nos ancêtres. Mais c'est impossible, il y a d'autres gens qui y vivent maintenant. Donc, on ne nous donne pas d'autres terres et les gens ne peuvent pas rentrer. C'est pour ça qu'on a décidé d'occuper des terrains, de construire dessus des petites maisons temporaires pour marquer notre territoire. Ensuite, quand on obtient les autorisations, chacun commence à construire sa maison.
Lila, 45 ans, a fait partie de ceux qui ont fondé le quartier tatar de Mareno à la sortie de Simferopol. Elle est rentrée d'Ouzbékistan en 1991 et depuis elle vit avec sa fille dans une petite maisonnette, deux pièces de briques et de broc. Mais comme tous les Tatars, Lila a un autre projet, celui de construire sa propre maison sur son terrain. Le chantier occupe d'ailleurs les trois quarts de son jardin.
Ma maison, je la construis par étapes, selon mes moyens, chaque année. Je mets un peu d'argent de côté pour faire avancer les travaux. La faire construire en une seule fois, financièrement, je ne pouvais pas me le permettre. Alors je fais petit à petit, selon l'argent qui me reste chaque année. Le chantier a commencé en 95, oui, il y a très longtemps déjà. D'ailleurs, le projet de départ a beaucoup évolué. J'ai revu les choses à la baisse, mais si vous voulez, je vous fais visiter. Ici, ce sera la cuisine. Ici, il y aura une arche qui donnera sur la salle à manger. Il n'y aura pas de mur là. Au fond, ce sera la chambre et là, l'entrée avec des placards, la salle de bain à droite, ici un couloir et là, la chambre de ma fille. Et c'est tout. C'est déjà beaucoup pour moi. On ne sera que deux à vivre ici avec ma fille. C'est donc bien assez.
Et vous savez quand les travaux vont se terminer ?
Dans 3 ans, j'espère. Oui, c'est ça. Ça aura fait 18 ans de chantier en tout pour une petite maison. Mais c'est pas ça l'important.
Quand on est un Tatar de Crimée, de retour d'exil, l'important c'est bel et bien d'avoir sa terre et d'y construire sa propre maison. Une nécessité d'ancrage dans le sol natal qui passe aussi par la construction de mosquées, puisque les Tatars sont des musulmans. Sur un terrain vague à l'extérieur de Simferopol, les Tatars ont voulu construire leur grande mosquée. Ruslan Raiboulayev, jeune journaliste tatar.
Parmi tous ceux qui ont participé au projet à travers toute la Crimée, certains ont donné de l'argent. Beaucoup aussi ont donné des pierres et des matériaux de construction. Les familles plus pauvres ont donné 2-3 pierres, d'autres ont proposé leur service avec leur camion par exemple. Tout ça grâce à la bonté des Tatars et leur envie de voir cette mosquée enfin construite.
Et voilà, faire pousser des coupoles islamiques dans une Crimée désormais slave et orthodoxe, ce n'est pas du goût de tout le monde, notamment des autorités et d'une partie de la population qui a peur de voir ces Tatars musulmans prendre trop de place dans le décor.
Ce projet, ça fait déjà plusieurs fois qu'il est retardé. Au début, on voulait construire la mosquée dans le centre-ville. On nous avait donné un bon terrain, rue Voroskovo. Et déjà, les autorités locales avaient annulé le contrat sans aucune raison. Ils nous ont dit, votre grande mosquée, vous n'avez qu'à la construire à l'extérieur de la ville. On vous donne un terrain, là-bas. Donc on y a été, on a fait tous les dossiers, les plans, tout le monde était d'accord sur ce projet. Et finalement, un nouveau maire est arrivé et son équipe a de nouveau annulé nos accords d'un seul coup. Nous, on avait déjà commencé à rassembler tout le matériel sur le terrain. Mais ils nous ont mis dehors et ils nous ont interdit de construire notre mosquée.
Depuis, les montagnes de Parpaing sont restées sur place, rappelant d'autres chantiers, ceux des maisons et des villages entiers de peuplement tatar qui ont poussé autour de Simferopol. Dans l'un de ces quartiers, nous rencontrons Djemal Adine et sa femme Remziyeh. Eux aussi ont construit leur maison de leurs propres mains.
Ici, on a dû tout construire à partir de zéro. On est devenu un peuple de bâtisseurs par la force des choses. Quand on est rentré, on a tous oublié nos vies d'avant, nos métiers, nos spécialités. Il fallait survivre et construire nos maisons. Alors les hommes se sont fait maçons, les femmes sont allées travailler comme vendeuses sur les marchés. Et ce n'est que maintenant que chacun commence à se souvenir de sa vraie profession. Parce que maintenant, on a passé le plus dur. Il reste beaucoup de problèmes, bien sûr, mais grâce à Dieu, on a une maison et de quoi vivre. Et maintenant, on a juste besoin qu'on nous fiche la paix. Et la santé, c'est tout ce qu'on demande.
Et 14 ans après leur retour, Remziyeh et Djemal Adine vivent toujours dans le rez-de-chaussée de leur maison en attendant que l'étage soit habitable. Tous deux sont nés en Géorgie où leurs parents avaient été déportés en
1944. Mon père, il avait ça dans le sang, l'amour de la Crimée, sa patrie. Et en 91, quand il est rentré ici pour la première fois, il n'a jamais voulu repartir en Géorgie. On lui disait, tu dois rentrer à Soukoumi, il y a maman qui restait là-bas. Mais il nous répondait, jamais je ne retournerai dans cette ville, c'est Staline qui m'envoyait là-bas. Et maintenant que je suis revenu chez moi, je ne bougerai plus d'ici, pour le meilleur ou pour le pire. Et il est resté, il a vécu ici, dans la misère, et il est mort en Crimée, mais il n'est pas retourné en Géorgie. Il a vécu sous la tente à l'époque où on occupait les terrains. Il avait déjà la soixantaine, mais il est resté sous sa tente en attendant qu'on construise des cabanes en dur. Ensuite, on a obtenu le droit de rester. On a construit une petite maison sommaire et c'est là qu'il a vécu ses derniers jours. Mais ici, personne ne nous a rien donné, même si aujourd'hui on entend dire qu'on est des privilégiés ou des voleurs. En réalité, on a dû se débrouiller par nous-mêmes, parce qu'on ne nous a rien donné. Il a fallu occuper les terrains, se battre. Et aujourd'hui encore, les autorités ukrainiennes nous oppriment et ne veulent rien nous donner. Mais on continuera à se battre pour récupérer ce qui est à nous.
Djemal Adine et Remziyeh se sont mariés en exil dans le Caucase. Leurs parents venaient du même village de Crimée et malgré la déportation, les familles ne se sont jamais perdues de vue.
Chez nous, les liens de famille ont toujours été très forts. C'est comme ça chez tous les Tatars de Crimée. On essaye de se marier entre Tatars et pendant l'exil, on faisait tout pour que l'idée de la nation des Tatars de Crimée ne se perde pas, que nos traditions, nos habitudes survivent. On présente nos enfants les uns aux autres, on les fait se rencontrer. Ça a toujours été très fort chez nous, cette idée qu'on avait une culture et une patrie, la Crimée, que nous étions des Tatars de Crimée. Qu'on ait été déportés en Russie ou en Géorgie, on a toujours gardé notre langue, nos traditions, comment on organise les mariages et les enterrements chez nous. Et c'est comme ça qu'on a survécu.
Mon nom est Moubeyen Batou Altan et je suis venu des États-Unis pour commémorer le 65e anniversaire de la déportation des Tatars de Crimée. Car même si 65 ans ont passé depuis la déportation, les Tatars de Crimée n'ont toujours pas été officiellement réhabilités, ils ne sont pas reconnus comme un peuple autochtone de Crimée et leur langue n'est pas reconnue langue officielle ici. 60% des Tatars sont au chômage et il existe encore aujourd'hui de nombreuses discriminations dont les Tatars de Crimée sont victimes. Les Tatars de Crimée sont laissés sans terrain et sans maison sur leur propre terre natale et nous sommes là pour réaffirmer que malgré tout cela, nous n'allons pas disparaître, nous n'irons vivre nulle part ailleurs. Car la Crimée est la seule et unique patrie des Tatars.
Comme Moubeyen Batou Altan l'Américain, plusieurs centaines de Tatars de la diaspora venus de 12 pays et de 3 continents se sont retrouvés le 18 mai dernier à Simferopol pour tenir le premier congrès mondial des Tatars de Crimée. L'occasion de réunir les fragments d'une même histoire dispersée et de peser ensemble pour que soit enfin reconnu et réaffirmé le droit des Tatars à vivre en paix sur la terre de leurs ancêtres. Soixante-cinq ans après leur déportation, les Tatars cherchent leur place en Crimée. Un reportage de Camille Magnard, réalisation Marc Minatel.
Un grand reportage que vous avez écouté il y a quelques instants, qui était signé Camille Magnard et que vous pouvez bien sûr écouter sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Merci de rester à l'écoute de RFI. Dans 2 minutes, il sera 20h à Paris. Et je vous rappelle que le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dans un peu plus d'une demi-heure à 20h30 heure de Paris, 18h30 temps universel. Ce sera la première édition d'Afrique Soir avec Muriel Pomponne. Bonne soirée à tous et à toutes.
Musique, c'est à la une en ce moment sur rfimusique.com.
Le Festival des musiques métisses à Angoulême propose cette année une sélection de groupes guinéens. C'est l'occasion pour RFI Musique de faire un zoom sur cette musique d'Afrique de l'Ouest.
RFIMusique.com, l'actualité musique, tout net. L'atelier des médias.
Bonjour Philippe Cou.
Je crois qu'il y a de la place pour des médias collectifs qui peuvent se créer, par exemple à partir de blogs.
L'atelier RFI, c'est de l'internet et de la radio en même temps.
Les médias ont compris que sur le web, il fallait inventer une nouvelle manière de raconter des histoires.
Vous pouvez donner vos idées, faire part de votre expérience, soumettre vos questions.
Retrouvez le blog de l'émission à l'adresse suivante, atelier.
RFI, Radio France Internationale.